IDFM 98 FM.
Tous ensemble présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM
98 FM. Focus. Focus.
98 FM.
Bonsoir à tous. Comment est-ce que vous allez tous, Sylvie? Comment est-ce que tu vas?
Ça va et toi, Mélik?
Bah, très bien. On est de retour sur Focus, hein, l'émission qui interroge les parcours, partage les univers.
C'est ça.
Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Nadir Dandoun, qui est avec nous aujourd'hui.
Comment ça va, Nadir?
Bonsoir, ça va très bien.
On est ravis de t'accueillir, c'est un véritable honneur.
C'est un plaisir partagé.
Merci en tout cas.
Alors, je vais te présenter un petit peu. Alors, Nadir, tu es journaliste, scénariste, réalisateur, écrivain, sportif et un véritable aventurier des temps modernes aux multiples exploits.
Exactement, c'est ça.
On va parler de plein de choses. Aujourd'hui, t'as une longue liste de vies, une belle liste.
Un gros parcours, grand parcours.
Exactement.
Et justement, on aimerait que tu le fasses partager à nos auditeurs. On aimerait justement te découvrir un peu plus et puis savoir plein de choses sur toi, tu vois. Donc c'est cool, d'avoir accepté. Je sais que tu fais pas beaucoup de médias. C'est super, on est super content. Quand j'ai dit à l'équipe qu'on allait avoir Nadir, ils ont dit ah ouais, tout le monde était super content, tout ça, tu vois.
Avec plaisir.
Et donc merci d'être là. Comment tu vas, Nadir?
Je vais très bien. Je vais mieux, on va dire.
D'accord. Pourquoi t'allais mal?
Ouais, j'ai eu pas les meilleures années de ma vie là. C'est 2-3 dernières années, mais
d'accord.
C'est derrière, donc tout va bien.
Tant mieux.
Donc le meilleur reste à venir.
Voilà.
On va faire un petit coucou quand même à l'équipe. Bah
c'est
déjà
ça.
Sidi, t'es là.
Moi je suis toujours là, moi. Toujours là, fidèle au poste, comme un soldat.
Très bien, Sidi. On est ravis, hein, toujours le petit duo. Il y a Jamal aussi à la technique.
Jamal classique.
Son. Et aujourd'hui, il va nous passer des petits sons un peu soul. Est-ce que c'est un thème musical qui te parle, la soul?
Ouais, c'est pas vrai, parce que je suis de la génération aussi où on écoutait beaucoup de la soul, beaucoup de funk aussi, quand on était petit.
C'est ça.
On allait dans les soirées dansantes, là. On allait dans une maison de quartier à côté.
Les après-midi,
c'est ça?
Ouais,
l'après-midi où ça finissait souvent en bagarre, quoi.
Ouais. Bon, et quand tu dis chez nous,
t'es. C'est son charme.
Ouais,
donc moi, je suis de l'île Saint-Denis. Ouais.
D'accord, ok.
Donc c'est vrai que je me rappelle, on allait, parce que quand on dit tricard dans les boîtes de nuit, bah, heureusement qu'il y avait encore des soirées dansantes, hein, parce que s'il fallait attendre que les videurs des boîtes de nuit à Paris nous laissent rentrer, bah, on n'aurait jamais dansé de nos vies, on n'aurait jamais pécho aussi peut-être de nos vies. Parce que c'était
vrai,
lors
ça.
De ces soirées dansantes qu'on rencontrait la gente féminine. Donc
c'est exactement ça.
C'était bien, c'était sympa en tout cas.
C'était le lieu. Bah écoutez, on va se mettre un premier petit morceau.
C'est
et
ça.
Après, on revient avec toi tout de suite, Nadir Dandoun, pardon.
1, 2, 1, 2. If I gave you my word that I love you, would you believe in me? If I counted all the stars high above you, would you believe in me? I'll use my soul to bring you pleasure, my heart to bring you joy. I'll build a love between us no other can destroy. Can
Nous sommes de retour sur Focus, présenté par l'équipe de Tous Ensemble tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM. On vient de s'écouter Would You Believe in Me de John Lucian.
Ah là là, comment t'as répété. T'as fait l'accent, le meilleur accent du monde.
Tout le long du son, j'étais en train de me le répéter dans la tête là.
La dernière émission, j'ai pas oublié. Hein. Tu m'as terminé avec mon accent, mais bon.
Mais t'as pris des cours depuis.
Ouais, obligé. Donc on est de retour avec Nadir Dandoun. Et en tout cas, merci encore d'être là. Et donc on va commencer un petit peu. Donc Nadir, quand je t'ai contacté, moi, tu m'as dit ouais, mais tu sais, Sidi, j'aime pas trop parler de moi. Et donc moi, j'aimerais savoir justement, t'es un aventurier, t'as fait plein de choses. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête de te dire que tu vas faire ça, ou quelle a été la rencontre justement qui t'a fait démarrer,
qui t'a fait le déclic,
tu vois?
Ben déjà, c'est vrai que quand tu m'as appelé, c'est vrai que j'étais pas trop chaud, parce que j'ai l'impression d'avoir raconté ça des centaines de fois. Et puis je me dis peut-être que c'est bien de donner la parole à des gens qui sont peut-être moins mis en avant, parce qu'il y en a plein en fait. T'as plein de gens dans les quartiers et autres qui font des choses super et qui ont peut-être pas toutes ces connexions comme moi maintenant je les ai, donc je bosse en tant que journaliste. Donc ouais, voilà, c'est pour ça. Et puis aussi, souvent j'ai été déçu par mes confrères journalistes.
D'accord.
Qui eux veulent à chaque fois
la polémique, peut-être, ou
puis, je leur parle de ce que je faisais gamin et tout ça, des en fait trucs où pour moi maintenant il y a prescription. Donc pour répondre à ta question, moi le déclic, c'est vrai que là c'est moi qui vous parle là, mais moi mon parcours, c'est surtout le fruit de rencontres. Je serais jamais devant vous, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait si j'avais pas rencontré les bonnes personnes à un bon moment. Il y a eu à chaque fois quelqu'un qui m'a tendu une perche. Je veux dire, la première personne, donc après avoir été pas super bien dans ma vie, donc j'ai eu une enfance et une adolescence qui n'était pas la meilleure, hein. Enfin, qui était une adolescence super heureuse parce que j'avais beaucoup de sœurs et parce que donc je traînais en bonne cité avec mes potes, donc c'était plutôt sympa, mais j'ai quand même connu les affres de la délinquance juvénile, et après un mini passage à Fleury-Mérogis, okay, je savais pas trop ce que j'allais faire. Et là, on avait la chance, c'est qu'en bas de la cité, on avait une salle de jeunes. C'était un gars là, Salah, il était bac plus 5 à l'époque, donc bac plus 5 il y a 40 ans,
c'est quelque chose.
C'est un bac plus 75 maintenant. Et le mec, il a eu une idée toute conne, il a transformé une salle de réunion en une salle de quartier, où il y avait une table de ping-pong, un baby-foot, mais aussi des jeux de tarot, le Scrabble et tout ça. Et nous, au début, donc pour nous faire venir dans la salle, on jouait au ping-pong, et quand la table de ping-pong a été cassée, on n'a pas eu d'autre choix que de jouer au tarot, au Scrabble et tout ça. Et petit à petit, c'est là que j'ai lu mon premier bouquin, c'est lui qui nous a amené la première fois dans un théâtre, et donc il m'a fait découvrir un peu tout ça. Et mon premier gros voyage, moi, c'est en 1993, où je pars avec un ami d'enfance de la cité, là, Yannick, où on part en Australie faire un raid en vélo.
D'accord.
VTT, on a fait 3000 km là-bas, là, on a longé la côte est, là. Et c'est encore grâce à ça, là, je me souviendrai toujours, hein. Un jour, on va le voir dans la maison de quartier, et on lui dit, voilà, on a ce projet vélo. Et si lui nous dit, vous êtes des mythos, laisse tomber, je pense que je suis pas ici devant toi, quoi.
D'accord.
Et lui, il nous dit, oui, je crois en vous et tout ça, on va le faire. Et donc, on a mis 9 mois pour faire ce premier projet. Donc, couscous party, c'est ma mère qui avait fait le couscous. Paella party. On a fait venir un groupe de rail. On a vendu des billets à tout le monde. Et en fait, le truc était bien, c'est que tout le monde dans la ville nous a soutenus. Alors que normalement, on dit, à chaque fois que les gens, ils sont pas solidaires, mais tout le monde nous a soutenus. Ils étaient tous fiers de nous. Et donc, je me rappellerai toute ma vie. Mais le 25 juillet 1993, on a pris l'avion, là, direction Cairns, qui se trouve au nord de l'Australie. À l'époque, parce que maintenant, tous les mecs de quartier partent, hein, mais nous, à l'époque, on était vus comme, comme des extraterrestres, hein. T'avais ça 30 ans, t'avais très peu de gens là qui partaient. Il y avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas d'internet, donc c'était un peu plus compliqué. Et ce voyage, il a changé toute ma vie. Hein. J'ai fait Lisani Sydney, quoi. Tu vois.
Ouais, c'est incroyable.
Donc
incroyable.
C'est ce que je dis souvent. Ça a été un peu Cendrillon du 93, quoi. Tu vois, t'arrives là-bas, les flics ils te disent bonjour, tu deviens français. T'as la même gueule que Guillaume Canet là-bas.
Ouais.
Voilà, non mais c'est vrai, les gens ils te disent French, where do you come from, tu vois, ouais, ouais, français, ouais. Mais d'où, de Paris, donc ils te demandent pas j'aime le couscous, tu viens d'où, donc ils te renvoient pas, enfin voilà, ils ne te renvoient pas à une autre identité. Et donc je suis retourné là-bas vivre 8 ans après. Et c'est okay. vrai que c'est là-bas que j'ai compris que j'étais d'abord français. Hein. C'est pour ça qu'on a inventé le droit du sol, hein, parce que on peut être français noir, français rebeu, français asiat, français tout ce que tu veux. Quoi. C'est le pays où tu vis et le pays où t'es né qui a fait en fait ce que t'es. Quoi.
Donc toi tu t'es senti français, tu te sentais
oui,
français aussi.
Voilà.
À l'époque aussi, enfin quand t'étais jeune dans
l'Île-Saint-Denis. Non, pas trop. D'accord. Non, parce que nous à l'époque, on se faisait contrôler par les keufs, on rentrait pas dans les boîtes de nuit, donc rien ne nous donnait envie d'aimer ce pays, quoi, puisqu'en fait t'étais relégué à chaque fois, quoi. Moi, enfin voilà, je me rappelle, je traînais beaucoup. Alors nous, à l'époque, on avait la chance d'être tous ensemble. On était tous des fils de pauvres, les blancs, les noirs, les juifs, voilà, les arabes, les chinois. On était tous ensemble. Donc en fait, on était une très grande famille. Sauf que mes potes blancs, eux, ils avaient du boulot l'été, moi non. Donc à un moment, voilà, il y avait toutes ces choses là qui me donnaient pas vraiment envie d'aimer ce pays, parce que quand un pays te rejette, c'est normal que voilà. Et puis après, donc il a fallu que j'aille vivre en Australie, pour me rendre compte que j'étais
français.
Un français. Comme les autres, hein. J'étais fier, hein, voilà, hein, arrogant aussi, comme en fait on peut l'être, quoi. Et c'est enfin vraiment ça qui pour moi fait pour moi être né dans un pays, y avoir vécu toute sa vie, ça suffit à être français, quoi. On n'a pas à aller chercher plus loin, quoi. Donc voilà, donc moi là-bas, 8 ans là-bas, ou là-bas, j'étais français par le regard de l'autre, hein, parce que ça marche aussi comme ça. Quand les gens te considèrent comme un français, tu l'es. Quand les gens te considèrent comme un délinquant, tu finis par le devenir aussi, quoi. C'était ce que disait Jean Genet dans ses livres aussi. Donc voilà, c'est un écrivain français qui avait écrit un livre qui s'appelle Le Journal du voleur, où donc il disait qu'à force d'être vu comme un voleur, il avait fini par le devenir. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est super important que les gens te regarde tel que t'es, quoi. Des clichés exactement. Et pas avec des différences.
Et comment tu expliques que certaines personnes ne projettent pas cette image de délinquant ou d'étranger sur toi et ont vu un espoir ou quelqu'un qui pouvait faire de grandes choses?
Tu parles là, ici, en France ou en Australie?
En France, en Australie.
Ouais. Parce que, heureusement qu'il y a des gens bien partout. Donc, heureusement. Puis là, c'est vrai que le fait que ça, là, lui, il était né dans le quartier, donc il était avec nous, quoi. Donc, lui, il avait pas une vision paternaliste de nous, il avait pas une vision, misérabiliste, quoi, vois. Donc, il nous a jamais pris de haut, il nous a toujours considéré comme des jeunes, quoi, parce que tout le temps, les jeunes, ils ont fait des bêtises, quoi, tu vois, en fait, parce que là, il y a un moment, à 15 ans, 16 ans, il y a la crise de l'adolescence, donc tu te sens pas bien, quoi. Que tu sois rebeu, renois, blanc, même ceux qui vivent dans des petits villages, des fois, ils font des bêtises, quoi. Ils font toutes des bêtises. Et là, après, ce qui fait que ton destin peut changer, c'est quand t'as une âme bienveillante.
Ouais.
Moi, tu vois, j'avais des parents qui savaient pas lire et écrire, c'était un peu compliqué. On était 9 enfants. Tu vois, c'était pas simple aussi de pouvoir. Et puis bon, on allait dans des écoles où les profs ils étaient absents, jamais remplacés. Donc, tu vois, c'est vrai que c'est un peu difficile. Après, je vais pas jouer ma petite victime et tout ça, parce que c'est un truc que j'aime pas en plus. Mais c'est vrai que tout était fait un peu pour qu'on échoue, quoi.
Ouais.
Et sauf que il m'a tendu la perche et j'ai su la saisir. Et il n'y a pas que lui. Donc, à chaque étape de ma vie où ça allait pas trop, où c'était soit une ex-petite copine, soit une copine, soit un pote que je rencontrais, tout ça. Donc, il y a eu à chaque fois une âme bienveillante parce que, en fait, voilà, la vie, il n'y a pas que des cons, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Heureusement. Mais faut pouvoir. Moi, je pense qu'il faut saisir cette chance aussi, des fois. Et donc, c'est vrai que des fois, on te tend la perche, soit tu la vois pas, soit t'as peut-être pas le courage de la prendre aussi.
Et tu as su la saisir une autre fois dans ta vie. Tu nous disais tout à l'heure en off que c'était un peu anecdotique pour toi, mais pour nous, c'est grandiose, voire extraordinaire. T'as gravi l'Everest. Et t'as vu t'es été sur le toit du monde et t'as vu la vue la plus haute de cette planète.
Ouais, exactement.
Comment est-ce que ça s'est fait, ça? Qui t'a rencontré pour te lancer dans cette aventure?
Alors moi, à chaque fois que, parce que j'interviens beaucoup dans les collèges, lycées, prisons, et à chaque fois je parle aux gens, moi c'est le premier conseil que je leur donne, c'est faites. Voilà, il n'y a pas de petits projets. On fait croire qu'il y a des petits projets, mais il n'y a pas de petits projets. On ne sait pas ce que ton petit projet va devenir. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ça super important de faire des choses. Moi, si je pars pas faire mon premier voyage en Australie en 1993, je vais pas. Et si je vis pas là-bas, après de là-bas, je suis parti faire un tour du monde à vélo pour la lutte contre le SIDA. Donc ça, c'était, on est en 2001. Et c'est lors de ce voyage que je m'arrête au Népal. Et quand je suis au Népal, je rencontre un gars qui s'occupe de monter des expéditions sur l'Everest, et c'est lui qui me met dans la tête que j'ai peut-être les dispositions physiques, voire mentales, d'aller gravir cette montagne, mais il me dit qu'il faut que je m'entraîne avant. Donc il me dit d'aller gravir le Mont Blanc, le Kilimandjaro, la Aconcagua, donc il me donne une série de montagnes à faire. Et moi, comme en fait, j'avais pas spécialement envie de gravir l'Everest, hein, c'était juste une sorte de blague que j'avais faite avec lui, et tous les ans, je lui envoyais des messages en lui disant, j'ai fait...
Le Mont Blanc.
Le Mont Blanc. Et puis quand en 2008, alors on est fin 2007, je travaille pour un quotidien connu en France où on me renouvelle pas mon contrat parce que j'ouvrais ma gueule sur plein de trucs. Voilà, je me laissais pas faire. Donc, mais par contre, je pars avec des primes. Et quand en janvier 2008, ce gars-là, ce Népalais que j'avais rencontré là, m'envoie un message pour me dire, alors vu que t'as fait toutes ces montagnes, est-ce que t'es prêt, on part dans 2 mois faire l'Everest, est-ce que tu veux venir avec nous? Donc moi j'avais toutes ces primes, voilà, j'avais les primes, j'avais un peu de thunes de côté. À l'époque c'était pas aussi cher que maintenant, je me suis dit bah franchement pourquoi pas, et je partais quoi. Et donc je suis parti le 2 avril 2008 de Paris en me disant bon, je le dis à personne, comme ça si j'y arrive pas personne ne le sait. J'avais que de l'argent à perdre, si c'était trop dur, voilà, je serais rentré. Ouais, donc j'ai en fait c'est marrant, mais j'ai toujours vécu comme ça. Chaque galère que j'ai eue, j'essaie de la transformer en un truc positif. Tu vois, par exemple, on me renouvelle pas mon contrat au Parisien, puisqu'il faut le nommer. Et ben avec toutes ces primes, et ben
t'es parti, voilà, t'as fait autre chose.
Voilà, je suis parti faire l'Everest, et puis là après l'Everest, il y a eu le livre,
ouais,
t'as eu le film, t'as eu tout ça quoi, ça a quand même déclenché, voilà.
Et justement, tu fais l'Everest, et comment le grand public en fait s'empare de ton histoire, et comment t'arrives justement à être médiatisé par rapport à ça? C'est tu l'as cherché, ou c'est vraiment les journalistes qui sont venus te voir?
Alors c'est une bonne question en fait. Quand je rentre de l'Everest, donc on est en juin 2008, il y a le Parisien local qui fait un petit article sur moi. Comme j'ai quand même gardé de très bons liens avec mes anciens collègues, parce que heureusement que mes collègues ils sont plutôt sympas. C'est en fait plus la direction à l'époque qui était un peu bizarroïde. Et donc là il y a un petit article, mais c'est tout. Pour être honnête avec toi, la plupart des gens ne me croient pas.
Okay.
Pensent que j'ai mitonné, pensent que c'est pas vrai. Donc le temps passe, je reprends ma vie normale, j'essaie de trouver du taf. À l'époque, je travaillais en freelance, mais je travaillais un peu avec France 3 à l'époque. Voilà, j'étais journaliste là-bas. Et après, il faut attendre un an pour que des journalistes de Libé fassent un article sur moi. Un an après. Alors pareil, là, le gars, quand il apprend par un
confrère
de ses collègues, qui est un très bon pote à moi, il dit, ouais, mais tu sais, moi, j'ai un de mes potes, il a fait l'Everest, il s'est fait passer pour un pro et tout ça, blablabla. Est-ce que ça t'intéresse? Lui, il dit, à mon avis, le mec, il mitonne. Donc, il a fallu que je reprouve que c'était vrai. Donc, okay. Et je me souviens, le collègue de Libé, il a envoyé un email à un de mes compagnons de cordée en lui disant, nous savons qu'il ne l'a pas fait, est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Tout le monde était persuadé que j'avais mitonné. Après, dans son article, il a reconnu que il avait eu des doutes et tout ça.
Okay.
C'est au moins un type honnête. Ça, c'est bien, déjà. Et puis, donc, il y a eu la double page. Suite à la double page, je suis passé ensuite à 7 à 8, l'émission phare de TF1, là. Mmh. Où là, vu à la télé, je suis devenu un homme beau, un homme fort, alors que les gens, ils se foutaient tous de ma gueule. Et là même, mais tu sais que, pas la fête que les Parisiens, mais même en bas de chez moi, en fait, les gens ne me croyaient pas. Ils ne me croyaient pas pour des tas de raisons, mais surtout, parce que le fatalisme, il est ancré dans les quartiers populaires. Ils étaient persuadés qu'un mec comme moi était pas capable de faire. Et tu vois, c'est ça qu'il faut qu'on essaye de désamorcer.
Ouais, de faire sauter, en fait, dans les quartiers.
De leur dire, oh mec, putain, franchement. Même, je trouve que c'est une force. En fait, quand tu comprends que c'est une force d'avoir grandi dans un quartier, tu peux tout faire après. Et ça, c'est dur parce que quand t'as la tête dans la merde, tu vois, bien sûr que c'est dur d'en sortir. Mais quand tu commences à comprendre que, en fait, c'est de mettre un pas après l'autre, t'es pour moi capable de faire plein de choses. Donc voilà, il y a eu ça, ce truc-là. Et puis après, voilà. Après, moi, comme je te disais en off, hein, moi, le tout de l'Everest, pour moi, c'est pas la plus belle chose que j'ai faite.
On va en reparler, en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est pas la plus belle chose que t'as fait.
Moi, il y a une chose encore plus belle et encore plus forte, encore plus haute, qui va parler à tout le monde. Hein, c'est le film sur ma maman.
Ouais. Exactement.
Ça, c'est
exactement.
Ça, pour moi, ça a quand même plus de sens. Parce que l'Everest, ok, mais c'est un truc très égocentrique.
Ouais, tu peux le dire, quel est le film?
Ouais, donc il s'appelle Des filles en avril. Donc en 2018, j'ai sorti en salle. Alors que toute ma vie, je pensais que pour sortir un film au cinéma, fallait des gros moyens, alors que c'est pas vrai. Tu vois, ça aussi, encore. On te fait croire que pour sortir un film au cinéma, il faut beaucoup de thunes, il faut une grosse boîte de production, il faut une grosse boîte de distribution. C'est pas vrai. Hein. Il peut sortir un film en salle. Et ce film, je l'ai fait avec une caméra à cassette. Donc ça a été une des œuvres les plus faciles que j'ai faites. Hein. C'est un huis clos. Donc j'ai pris une vieille caméra et j'ai commencé à juste j'ai commencé à poser des questions à ma mère. En fait, c'est ça qu'il faut que les gens aussi comprennent. Si t'as un sujet fort, tu n'as pas besoin d'avoir une super belle caméra,
des effets spéciaux,
une équipe de 40 personnes. Ouais. Si t'as et tu vois, le film, il a cartonné. Là, avec ma mère, on est parti dans tous les bleds de France. On l'a présenté dans son village et tout ça, là-bas.
À Béjaïa.
Au bled, à Béjaïa. Tu te rends compte, la salle, il y avait 350 personnes. C'était exceptionnel. C'était un des plus beaux moments de ma vie, je crois. Et ça a été exceptionnel. Là, tu vois, j'en parle, j'ai encore des frissons.
Ça se voit, en tout cas, quand on
parle. En Belgique, en Suisse, on l'a présenté, au Maroc, on l'a emmené. Donc, tu vois. Voilà. C'est là, dans ça qu'il faut que les gens aussi comprennent, quoi. C'est qu'il faut oser et il faut faire des choses. Et il faut pas avoir peur de l'échec. Et puis, bon, tu vois, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Ce que je veux dire, c'est que même quand ça marche pas, bon, les gens, peut-être que sur le moment, voilà, mais puis après, les gens zappent vite, quoi, ils oublient vite. Ouais. Donc, c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut faire les choses en cohérence avec ce que tu penses, surtout, et avec ce que tu crois. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire. Toutes mes œuvres, il y a des liens entre mes œuvres. Tu vois, j'ai quand même écrit 4 bouquins, j'ai fait 4 documentaires. J'ai co-scénarisé 2 films et, tu vois, avec un peu de recul, bah, j'ai pas honte de toutes mes œuvres, quoi. Parce que j'essaie à chaque fois de faire gaffe à ce que je vais dire et, enfin, pas faire gaffe. Vraiment être en cohérence et pas de tomber dans la facilité. Parce qu'on peut très vite tomber dans la facilité. Moi, je vais pas me la raconter, mais avec mon parcours, je sais que j'aurais pu aller vachement plus haut, quoi. Si j'avais voulu répondre, si j'avais voulu faire comme d'autres, hein, qui, comme on dit, pour parler de manière polie, baisse le pantalon. Moi, j'ai pas envie de baisser le pantalon.
Et puis même.
Envie, je m'en fous, quoi.
Tes œuvres parlent pour toi.
Oui. Non, mais j'ai pas envie parce que donc je me dis en plus. Voilà. Après, il y a un truc que ma mère m'a appris, c'est à être patient. Tu vois, je me rappelle quand j'étais petit, ma mère, elle m'avait dit, si t'as de la patience, si t'as du courage et si t'as de l'amour, tu peux tout faire. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir lu Pierre, Bourdieu, Sayad ou Franz Fanon pour comprendre ce genre de truc. Hein. Tu vois, moi, franchement, je suis pas du tout. Hein, enfin, voilà, je vais être honnête avec toi. Hein, je suis pas du tout un intellectuel. Et moi, j'essaie de. Moi, pour moi, c'est quand c'est dur, il faut que tu t'accroches. Voilà, d'essayer de rendre fier ton père et ta mère. T'es proche, quoi, c'est tout. Moi, tu vois, je suis un mec assez basique, hein, j'ai pas me raconter. C'est ça. Et puis voilà, courage, amour, patience. Voilà. Et tu vois, t'as pas besoin de lire 40 000 bouquins. Parce que là, ce que j'aime pas aussi, moi, c'est ça. C'est presque cette course à.
À l'intellectuel.
Voilà, non, c'est ça. C'est cette course à l'intellectualisme, comme on dit. Tu vois, pour être un peu reconnu dans ce pays-là, c'est qu'il faut avoir sorti un livre, faut avoir fait un film. Alors qu'il y a plein de gens qui disent des choses qui sont super intéressantes.
Ah oui, c'est vrai.
Tu vois, par exemple, moi, je sais que ma mère, elle sait pas lire et écrire. mais elle sort des trucs qui sont exceptionnels. Qui sont exceptionnels. Ma mère, elle dit, comme, je suis sûr, ta mère, et tout ça, quoi. Tu vois, nos, voilà, Daronne et nos darons, ils avaient une science de la vie
extraordinaire.
Voilà,
tu
dis. Ça va, bah,
d'ailleurs, tu parles beaucoup de tes parents, tu leur rends hommage dans plusieurs de tes œuvres, ton papa, ta maman. On va passer un petit morceau qui fait écho à tout ça, et tu vas nous dire ce que t'en penses, ce qui te fait ressentir.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis.
Alors en quoi elle fait écho en toi cette musique? Qu'est-ce qu'elle peut te faire
Ça parle de mon père, ça parle de tous nos papas à nous. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai grandi à la cité Maurice-Thérèse de Lissany où voilà, il y avait que des papas prolétaires. Il y avait des papas français, italiens, espagnols, maghrébins, noirs africains. On était tous ensemble. Ils partaient tous ensemble avec leur petite gamelle, quoi. Et tu vois, de la manière dont ils en parlent, moi, quand en fait je l'écoute, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Et puis comme en fait mon père n'est en fait plus de ce monde en plus, donc ça me rappelle encore plus.
Plus de choses.
Et tu vois, c'est là en fait une autre époque aussi, quoi.
Et pour ceux qui nous écoutent, c'est Mon Vieux, le titre de Daniel Guichard.
Exactement. Que j'ai découvert justement. Et c'est vrai que ça donne des frissons, même c'est un peu éclectique, c'est pas trop le style musical de tu vois, des jeunes de quartier et tout, mais en fait tu l'écoutes et tu prends une tarte, tu vois.
Ouais, voilà.
On en parlait du fond tout à l'heure, là faut vraiment écouter les paroles, le fond, et ça parle à tout le monde.
Ouais, c'est ça, parce que c'est ça, on va arrêter ce qui nous rassemble plus d'abord, c'est nos origines sociales, c'est ce que je dis souvent, j'ai aucun point commun avec le fils de l'ambassadeur du Maroc qui est là, donc peut-être un mec sympa. Mais tu vois, j'ai quand même plus de points communs avec mon pote Yannick avec qui j'ai grandi. Tu vois, on était dans la même cité. Tu vois, sa mère était pauvre. Il y avait mes parents qui étaient pauvres. Donc, on partageait des trucs
simples.
Ensemble, ouais, et simples, ouais. Quoi, tu vois. On était des fils de pauvres, on était des fils de prolo. Ouais, donc moi, mes frères, c'est pas des maghrébins, mes frères. Moi, c'est des gens avec qui j'ai vécu des choses, quoi. Ouais. C'est pas parce que le mec, il est rebeu, que ça va être mon frère, quoi. Je sais pas, là, j'ai l'impression de d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est ça, quoi. Et moi, j'ai presque l'impression qu'il y a des gens qui, en fait, pensent qu'ils vont être proches de gens qui ont la même couleur de peau que, quoi. Débile, un peu.
Et tu penses qu'en ce moment, justement, c'est ce qui se passe, c'est ce que tu ressens, justement, dans les quartiers?
Oui, mais c'est là, ouais, alors, sauf que c'est lié au fait que quand on parque les mêmes personnes dans les mêmes endroits, c'est vrai que c'est ça qui crée aussi du communautarisme, hein. Mm-hmm. Mais c'est la même chose, hein. Tu vois, par exemple, tu vas à Neuilly-sur-Seine, il y a en fait que des riches, quoi. Et donc, eux, là, en fait, ils se mélangent pas. Alors, il paraît qu'à Neuilly-sur-Seine, quand même, il y a quand même quelques pauvres aussi, quoi. Je crois qu'il y a 2% de logements sociaux aussi, quoi. Donc, il n'y a pas que des riches non plus, quoi. Pour là, pas être dans la caricature comme eux peuvent l'être parfois. Mais c'est vrai que, pour moi, le vrai mélange, c'est d'abord la mixité sociale, quoi. Si là, en fait, tu mets que des bourgeois dans le même truc, ou si tu mets que des pauvres, faut en fait mélanger. Et moi, avant, dans ma ville, hein, donc à Lissany, il y avait des lieux où on pouvait être mélangé. Il y avait le cinéma municipal, il y avait la fête de la cité Maurice Thorez, où il y avait toute la ville qui pouvait se rencontrer. Sauf que la mairie, elle est passée en 2001 à la changé de bord, elle est devenue verte, là. Et ils ont fermé le cinéma, il y avait plus de fête de la cité Thorez, il y avait plus tout ça, quoi. Donc, okay. Ils ont fait venir des bobos pour être un peu, pour aller vite, hein. Moi, je n'ai rien contre voilà, une autre population, il n'y a pas de problème. Il faut que ça, donc, il faut que ça se mixe, il faut que ça se mélange. Mais comme il n'y a pas d'endroit pour se voir et pour se rencontrer, et ben, chacun reste dans son coin, quoi.
Ouais, il faut des lieux, des événements qui fédèrent. Écoute, on va se mettre un deuxième morceau qui, je pense, va aussi te parler.
Et on est de retour, justement. On est de retour avec ce morceau de Supreme NTM, Le Monde de Demain. Aussi, qu'est-ce que ça représente pour toi?
Bah, déjà, moi, j'ai grandi à l'île Sani.
Ouais.
J'ai eu la chance d'assister au premier concert. Hein. Tu vois, voilà. Enfin, je me rappelle des premiers concerts du groupe. Il y en avait un qui était Astin. Je me rappelle, enfin, à l'époque, c'était peut-être en 1988, 89, un truc d'accord, comme ça, quoi. Ouais. Et, enfin, voilà, il y avait pas beaucoup de personnes dans la salle. Mais par contre, bagarre et tout ça, quoi. Mais des vrais concerts. Et puis, de voir ce qu'ils sont, devenus. Et puis même, quand t'écoutes les paroles, ça te parle, quoi. C'est là un peu ce qu'on avait vécu, nous. Et puis, tu vois, d'avoir pu écrire ce genre de texte, il y a plus de 30 ans, parce que je crois qu'elle date de 91, 92, cette chanson, peut-être 90, cette chanson, 91, 92, quoi. Bah, été visionnaire, quoi, surtout. Ouais, ouais. Et non, même, d'avoir été, et puis, putain, elle est vachement politique, cette chanson. Tu vois, même, tu l'écoutes 30 piges après, on a l'impression que...
Tu es en train de vivre le
truc.
Que
vraiment rien n'a changé, ouais, quoi. Et que, tu vois, c'est la presse, le même fatalisme, et c'est le même foutage de gueule, surtout. Tu vois, enfin, voilà, les politiques s'en tapent des quartiers populaires, parce qu'ils savent que il y a très peu de gens qui votent aussi.
Ouais.
Tu vois, nous, ils ont en fait pas peur de nous, parce qu'ils se disent, les mecs qui votent pour eux, les mecs qui restent dans leur coin. Tu vois, ça, le problème. Après, c'est normal, voter pour qui, parfois aussi. Tu vois, t'as l'impression qu'ils sont, c'est à la presque tous les mêmes. Ouais. T'as l'impression qu'ils veulent tous le pouvoir et... Donc, tu vois, c'est ça qui est problématique. Mais avec cette chanson, et puis même le rythme et tout ça, quoi. Puis
non,
c'est le phrasé. Ouais. C'est un des top 5, comme on dit ici, souvent.
Non, musicalement, elle est incroyable. Ouais, politiquement aussi, dans le fond, dans la forme.
Ouais,
et c'est magnifique. On va conclure cette séquence avec un troisième et dernier extrait. On retourne sur de la chanson française.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête.
C'était la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Alors celle-ci, en quoi elle fait écho en toi?
Ben celle-là, elle fait écho à des ex-petites copines que j'ai pas su aimer aussi, quoi, parce que voilà, t'arrives à un âge où tu regardes derrière, quoi, où il y a des nanas avec qui t'étais.
Et t'as des regrets par rapport à ça, justement?
Bon, on en a tous, ouais, hein. Il y a des nanas que t'as laissé partir des fois, que t'aurais dû les garder peut-être. Ah, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est vrai qu'il y a des belles histoires. Après, quand tu grandis dans un quartier, il y a aussi parfois le manque affectif et tout ça. Et puis, nous, on a grandi on avait des relations humaines qui étaient pas simples, hein. Tu vois, il y avait le rapport de force quand on était gamin. On était des mecs, en plus, donc il fallait aussi tu vois, aussi montrer
le torse.
Voilà, voilà, ouais. T'es fort et tout ça, quoi. Donc, forcément, après, moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu sept sœurs, donc, tu vois, c'est ça qui m'a donné un peu plus de sensibilité, peut-être que d'autres. Je pense que si j'avais eu sept frères, je pense que j'aurais peut-être mal fini. Donc, ce qui m'a toujours plus ou moins sauvé, moi, c'est ça, quoi. C'est là quand même d'avoir grandi avec sept frangines, avoir une mère aussi. Hein, voilà. Ça m'a, voilà, c'est vrai que ça m'a aidé. Mais, comme un peu tout le monde, même si on joue les durs, voilà, voilà. Donc on reste aussi. Je pense que dans les quartiers, il y a plus de gens sensibles qu'on veut le dire des fois dans les médias ou ailleurs, quoi.
C'est sûr. Pourquoi ce besoin de jouer les durs, comme tu le dis?
Bah parce que quand, parce que ça, c'est, enfin voilà, je pense l'effet de groupe, quoi. Quand donc t'es avec tes mecs, tu là, tu veux pas passer pour une bassin. Et moi, donc, enfin voilà, par exemple, quand moi j'étais petit, il fallait aussi que je bombe le torse. J'avais sept sœurs, donc il fallait que j'en défende, quoi. S'il y avait des mecs qui, par exemple, se comportaient mal avec mes sœurs, il fallait que je sois là, quoi. Donc il fallait que je montre aussi que j'avais pas peur. Donc ça m'a aussi développé ça chez moi, de me dire. Enfin voilà, mes sœurs, je les ai toujours défendues. Mes nièces, j'ai toujours défendu. J'en ai plein de nièces, je dois en avoir. Quasiment avec mes nièces et mes arrière-petites nièces, d'en avoir 12 ou 13, voire 15, je sais plus, quoi. J'en ai tellement, quoi. Donc, tu vois, il a toujours fallu, quoi. Alors qu'en vérité, voilà, moi, il m'est arrivé d'avoir mal en amour, moi. Il y a des nanas qui m'ont quitté, tu vois, j'avais les larmes aux yeux, j'étais comme ouf, quoi. J'étais comme donc chaque mec qui, par exemple, se fait larguer, quoi. C'est super difficile. Ouais. Donc, cette chanson, je trouve qu'elle est belle parce que elle presque raconte comment c'est pas simple d'aimer, quoi. C'est vrai, c'est super difficile d'aimer
et d'être aimé
en,
aussi.
En retour, c'est ça qui est difficile. Ouais. Et c'est là, c'est pour ça que quand t'aimes et quand tu es aimé aussi, c'est des choses qui sont tellement rares et tellement précieuses qu'il faut tout faire pour les sauvegarder. Mais ça, c'est des choses que t'apprends après, quoi. On fait tous, voilà.
Et tu penses qu'on se trompe tous. Ouais, tu penses que même dans nos quartiers, tu penses qu'il y a un peu ce manque d'amour, ce manque d'affection, tu vois, où on le ressent pas assez.
Ouais. Enfin, il y a en fait ça, et là, il y a, en fait aussi, mais je pense pas que c'est propre au quartier. Moi, enfin, voilà, par exemple, je connais d'autres gens qui, eux, ont grandi à Paris dans des milieux de riches, bourgeois, tout ça, quoi. Ouais. Et tu vois, parfois, le manque affectif, il y a, par exemple, des parents qui, par exemple, bossent et qui ont pas le temps de s'occuper de leur gamin. Nous, tu vois, tu sais très bien que dans les familles maghrébines ou dans les familles noires africaines, je pense que ça doit être pareil. Il y a aussi, voilà, il y a, par exemple, nos mamans qui nous disent pas je t'aime, qui nous prennent pas dans les bras, qui nous font pas des bisous aussi, quoi. Bon, maintenant, ça a maintenant changé avec la nouvelle génération. Mais tu vois, moi, par exemple, mon père et ma mère, voilà, ils étaient pas, enfin, donc, ils parlaient pas beaucoup, quoi. Ils disaient pas, je t'aime, ou vas-y, faut que...
Une sorte de pudeur.
Pudeur. Ouais, voilà, c'est ça, il y avait une pudeur. Sauf qu'ils nous aimaient, mais donc ils nous le montraient d'une autre manière. Ouais. Si, en fait, ils nous le montraient, en nous nourrissant.
Ouais, exactement.
En nous disant plein de bouffe et en faisant en sorte qu'on ne manque rien. Ce qui est là, déjà beaucoup.
Ce qui est énorme, et petit, on n'a pas forcément conscience de...
Oui, c'est ça.
De l'acte, c'est ça. Que c'est.
Tu vois, on aurait aimé quand même que là, nos parents nous prennent dans les bras et qu'ils nous fassent des petits bisous, quoi. Parce que c'est... Non, mais voilà. Enfin, voilà. Parce qu'on a besoin d'amour, en vérité. On a tous besoin d'amour. Après, ouais. Donc, l'amour, tu vas le chercher ailleurs.
Donc, les papas et les mamans qui nous écoutent, dites à vos enfants que vous les aimez.
Exactement. Non, mais c'est vrai. C'est important. Tu vois, c'est
et pareil aussi, hein. Et pareil aussi pour les enfants, dites-leur. C'est, tu vois, c'est pas une honte de dire à ta maman que tu l'aimes.
Oui, parce que quand ils partent après, c'est un peu trop tard. Ben, c'est là, ce que là, c'est disait, ce que disait, si le copain t'aime, dans une de leurs chansons. Donc, là, il disait, fallait pas. C'est une chanson où il parle de ses parents, il parle des parents. Oui, voilà, c'est ça. Dans Laisse pas traîner ton fils, ouais. Tu vois, c'est vrai, il y a tout ça. Et c'est vrai que nous, dans les quartiers, il faut qu'on apprenne aussi parfois à se détendre aussi sur ça. Et être plus dans l'affect. Parce que moi, quand je parle seul avec eux, tu verrais, ils me parlent d'amour. Moi, tu vois, par exemple, tous les ans, je pars avec des gamins là. Du ministère de la Justice, là, je parle avec des gamins, marcher à la montagne et tout ça, quoi. Et quand t'es seul avec eux, quoi. Alors que quand ils sont en groupe, tu vois, les mecs, ils jouent les durs et tout ça. Mais quand tu les prends un par un, tu te rends
compte qu'ils sont mignons,
plein d'amour. Même, ils ont plein d'amour. Et même, eux là, ce qu'ils rêvent, c'est de trouver une nana, et de faire leur vie avec, et voilà. Et tu vois, voilà, d'aimer et être aimé, quoi. Tous on est comme ça, en vérité. Mais, je trouve qu'il faut même je trouve que ça demande plus de courage de le dire que d'autres choses. Tu vois, par exemple, d'aller se battre, presque presque de monter sur un ring, tu vois. Ouais, ça, nous, ils ont moins peur que de dire à une meuf qu'ils l'aiment, quoi. C'est ça qui est, ça qui est un
peu. C'est pour ça qu'on fait des sports de combat, alors.
Voilà, des sports de combat, c'est tout pour ça.
Merci Nadjira Dodo pour cette petite séquence en musique, c'était cool.
Avec grand plaisir.
On va s'écouter un petit son, Just the Two of Us de Bill Withers.
Ah, t'as travaillé vraiment ton accent, hein.
Mais c'est un morceau que je connais très bien.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Nous sommes de retour sur Focus, présenté par l'équipe de Tous Ensemble, tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM. Aujourd'hui, nous sommes avec Nadjir Dandoun, avec qui on échange déjà depuis un petit moment, juste avant cette petite, ce petit morceau.
Et très, très belle expérience, très, enfin, voilà, tu vois, c'est, il y a plein de choses à dire, exactement. On a plein de choses à dire, on a plein de choses à te raconter, à entendre de ta part, tu vois.
Bon, moi, j'avais un petit truc juste avant ce morceau, on parlait, enfin, tu as évoqué les jeunes que tu accompagnes, de belles natures françaises, pour aller marcher tout simplement. Et il y a certains d'entre eux qui n'ont jamais quitté leur quartier, leur banlieue. Comment est-ce que tu l'expliques ça? On l'a un peu évoqué déjà tout à l'heure, mais
ouais. En fait, ce qui est quand même ce qui est quand même assez dingue, hein, c'est qu'en 2022 encore, hein, t'as des jeunes des fois de 20 ans qui sont jamais sortis de l'Île-de-France, quoi.
C'est incroyable.
C'est flippant. Moi, quand ces mômes me disent ça, je leur dis, bah, arrêtez. C'est pas possible. Et donc, ouais, on les emmène marcher. Alors, comment j'explique ça? Alors, je sais que nous, quand on était petits, j'étais dans une mairie communiste et il y avait pas mal de voyages qui se faisaient, tu vois. Il y avait aussi des colonies, des vacances, il y avait des centres aérés, il y avait tout ça, quoi. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que ça, il y en a moins qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a moins de moyens sur ça. Moi, par exemple, dans ma ville, il y a vachement moins qu'avant. Nous, par exemple, on partait en casse de neige un mois, on partait.
Je te le dis, ouais, il y en a moins qu'avant.
CM2, tu vois. Ouais. Voilà. Donc déjà, il y a ça, donc peut-être il y a ça. Donc c'est pour ça, j'emmène donc avec le ministère de la Justice, là, j'emmène des gamins qui sont sous main de la justice, là, à marcher, donc à la montagne. Et au début, c'est dur, parce que ils ont grandi dans le béton, le bitume et tout ça, quoi. Et puis, donc, ils arrivent et ils se retrouvent face à eux-mêmes, surtout. Et puis même, ils se retrouvent dans le calme. C'est quand même des mômes qui vivent dans le bruit, parce que quand tu es dans une ville, c'est le bruit des voitures, des bus, des trains, des grosses bécanes et tout ça, quoi. Et là, tu te retrouves face à toi-même. Et tu verrais comment, au bout de 5 jours, comment ça les transforme, tu vois pas. Là, on a fait 3-4 voyages, et puis, en 2019, lors du premier voyage, j'ai fait un petit film aussi sur eux, quoi, où donc ils racontent un peu tout ça, quoi. Et tu te rends compte que, après, je vais pas dire que c'est ça qui va faire en sorte qu'ils sortent de la délinquance, mais ça participe.
Ça aide, en tout cas, ça aide. De voir autre chose.
Ouais,
ça me fait un peu penser à La Cour des Miracles de Karine May et Hakim Zani. On a reçu pour la première fois, pour le premier numéro de Focus.
C'est ça, c'est que là, ce qui est, il faut être bien avec ce petit voyage de 6 ou 7 jours là, c'est que déjà ils apprennent à ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, l'effort, ça pour moi c'est un truc super important, parce que quand t'as mal et quand tu voilà et quand tu te rends compte que tu es capable de faire plus que ce que les gens disent sur toi. Et moi, ce que moi j'essaie à chaque fois que je fais un voyage avec eux, et donc je pars bien sûr avec deux autres éducateurs de la PJJ, et quand on part ensemble et quand on revient, moi je me concentre aussi beaucoup sur la restitution.
Ouais, c'est important.
Je trouve que c'est super important. Je trouve qu'on travaille pas assez sur l'estime de soi, sur l'estime de même. Moi, quand j'étais petit, j'avais une estime de moi qui était proche du néant. Et donc, avec eux, quand j'ai fait le film, la première année, j'ai fait le film, et grâce à ce film, on fait souvent des avant-premières où, tu vois, le film, on le montre dans des, on monte dans des cinémas, et je fais venir ces mômes. Ils ont des standing ovations.
Ouais, bah ouais.
T'as des mecs qui veulent faire prendre photo avec eux. C'est des sentiments qu'ils ne connaissent pas. C'est des mômes depuis qu'ils sont gamins, on leur dit que c'est des losers, on leur dit que c'est des ratés. Ouais, ouais. Et là, on leur dit bravo, merci, vous avez fait super. Et ben ça, je te jure que ça les sort de la délinquance. Parce qu'ils ont une autre estime d'eux-mêmes. Tu vois, je trouve parfois, il suffit de pas grand-chose. Hein. Moi, ça, c'était ça. Avant, j'étais une Kaira, et puis y a un gars, voilà, un éducateur, qui m'a juste donné ma chance et qui m'a surtout regardé
autrement.
Voilà, c'est ça, autrement. Qui m'a vraiment regardé en me disant non, tu n'es pas une merde, tu n'es pas un loser. Tu vois, donc ça bon, enfin voilà, je suis pas en train de dire que ça va marcher avec tout le monde, mais parfois il suffit juste de
une rencontre,
ça, quoi. Voilà, ouais, une rencontre. Un taf, une meuf aussi parfois, ouais. Tu vois, parfois il y a des gamins qui se mettent avec une nana et puis ensuite
ils changent, ils sortent de la vacance.
Ils ont un môme, donc ils ont d'autres responsabilités, un boulot. Et c'est pour ça qu'il faut pas lâcher sur ça. Après, t'as les autres discours politicards qui eux disent qu'il faut les mettre en prison, mais si tu les fous en prison pour quand ils le sortent de prison, que les mecs ils soient pires, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de faire beaucoup de prévention. Après, le problème de la prévention, c'est que ça ne se voit pas. Alors que quand t'arrêtes un mec, t'as des chiffres qui sont là. J'ai arrêté 40 délinquants. D'accord. Ouais. Sauf que si tu travailles bien en amont, tu n'as pas besoin d'arrêter 40 gars, puisque les mecs, c'est pas des délinquants. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est problématique. C'est des choses qui ne se quantifient pas.
Exactement. Parce qu'il n'y a pas que des délinquants dans les quartiers. Tu vois, moi, nous, on a grandi dans les quartiers. Tu vois, et je sais pas, on a fait quelques bêtises, mais c'est pas pour autant qu'on a fini.
Oui. Tu vois. Même en plus, je trouve de faire des petites bêtises, comme on dit,
ça forge.
Ça forge et ça permet de comprendre qu'il faut pas les faire aussi, quoi. Tu vois, donc c'est. Puis là, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand t'es gamin, on a tous fait des petites bêtises, voilà. Après, faut faire gaffe de pas commettre, pas commettre l'irréparable, comme on dit, quoi.
Mais qu'est là après. Paradoxalement à tout ça, tu disais tout à l'heure que c'était une force de grandir et de vivre en quartier.
Ouais.
En quoi est-ce que ça a donné une énergie différente?
Moi, ça a été une force dans mon métier. Moi, je travaille en tant que journaliste. Je me sens bien dans tous les milieux. Moi, je sais que j'ai des confrères qui ont grandi dans les beaux quartiers et quand ils franchissent l'autre côté du périph, ils sont en transe, ils sont traumatisés. Moi, non, je suis pas traumatisé. Donc, moi, j'arrive à être bien dans tous les milieux. On est des caméléons.
C'est ce que j'allais dire en plus, vraiment.
On est des caméléons. On arrive à être bien avec tout le monde si on veut, parce que c'est pas dur d'avoir leur code. C'est de dire bonjour, je m'appelle Nadir, enchanté, voilà, et puis tu parles avec eux, quoi. Mais nous, on a des codes qui sont pas les mêmes, quand même, souvent.
C'est complexe.
Et puis c'est pas ça, c'est que je trouve, en plus, quand tu viens dans les quartiers et quand t'as peur, ça se voit. Et quand t'as peur, tu peux pas bien faire ton travail. Mmh. Donc, moi, quand je viens faire des reportages dans les quartiers, je me sens à l'aise, quoi. Je sais pas, parce que je suis chez moi, quoi. Y a pas de. Donc, c'est pour ça que. Et puis, quand tu grandis dans des environnements qui sont pas simples et quand t'arrives à t'en sortir, tu es forcément plus fort puisque t'as déjà ce passif. Voilà.
Et juste, ta force, c'est peut-être ça, c'est te sentir bien partout chez toi et exactement. Même peut-être à l'autre bout du monde.
Ouais. Oui, exactement. Oui, moi, par exemple, lors de mon tour du monde à vélo où je me suis retrouvé des fois dans des endroits où, tu vois, par exemple, je suis avec mon vélo en Inde. Où il n'y a pas d'occidental, où je suis le seul homme blanc. avec mon vélo. Et j'arrive le soir dans des villages où il n'y a pas de chambre d'hôtel, où il n'y a rien du tout. Et là, t'as les gens qui te matent comme si t'étais de Mars, quoi. Et tu en fait sens que c'est un peu chaud. Et ben, tu sens le danger. Je trouve que quand tu grandis dans un quartier, tu sens le danger un peu. Ouais. Tu en fait sens que si ça sent bon ou si ça sent mauvais. Il y a des trucs que tu développes.
Et t'as vécu justement des trucs de fou quand tu l'as
en Inde. Vélo, j'ai vécu des trucs de malade. Hein, ouais. Tu vois, non. Enfin, lors de ce tour du monde qui a duré presque un an, on m'a volé mon vélo deux fois. Okay. Sauf que je l'ai récupéré. Une fois, le mec, il avait pris mon vélo, il est en train de se barrer. Ben, voilà, le mec, j'ai mis une patate. T'étais presque obligé de récupérer ton truc. Et voilà, mais une fois, c'était en République tchèque, je crois. Et pareil, le mec, il s'était barré avec mon vélo, quoi. Il commençait à le courir, je lui dis, et puis bon, le mec, il a rendu le vélo, quoi. Donc, il y a aussi des trucs. Et puis, une fois, je me rappelle, hein, j'étais en Birmanie, donc, à l'époque de la junte militaire, en 2001, où il y avait personne qui entrait là-bas. J'étais avec mon vélo le soir, tard, comme ça. Alors, faut savoir que c'est le deuxième pays au monde pour la production de drogue, d'opium, là-bas.
Ouais, Birmanie.
Enfin, là-bas, la dose, elle est à 30 centimes d'euros, même pas, quoi, tu vois. Donc, et t'as des toxicomanes qui là vraiment jonchent la ville, quoi, tu vois. Tu sais, t'en vois vraiment partout, quoi, autour de toi, quoi. Et enfin, voilà, je me rappelle, il y avait eu un soir où il fallait que je trouve un endroit pour dormir, quoi. Et puis, je suis tombé sur 3-4 d'entre eux, quoi. Et ça, tu le sens, parce que nous aussi, dans mon quartier, enfin, je connaissais aussi beaucoup de tox, comme on dit, là. Et donc, tu vois aussi ce truc, quoi. Aussi le truc du danger, quoi.
Ouais,
il m'arrivait des trucs de malade. Ouais, je suis aguet. Et puis, bon, j'ai, voilà, aussi une grande gueule, tu vois. Enfin, voilà, même si t'as peur, tu ne montres pas que t'as peur.
Tu te laisses pas intimider.
Voilà, c'est ça, on se laisse pas intimider. Donc, tu vois, il y a en fait aussi, ouais. Et puis bon, le fait d'avoir fait de la boxe et tout ça aussi. Donc, je vais pas me dire que si les mecs ils sont 10, tu peux rien faire aussi non plus.
Ouais, c'est super. Mais héros, quand même, ça forge le caractère,
ça,
tu vois.
Ça forge le caractère, c'est pour ça que ça peut être une force très vite. Après, bien sûr, je préférais avoir grandi dans un environnement qui est pas violent aussi non plus. Je vais pas dire que c'est bien, voilà, d'avoir grandi dans un environnement violent. Faut pas être con, faut pas être débile. Mais comme on a grandi dans cet environnement,
on a les codes quand même.
On a les codes. Ouais. Et puis pour un peu nuancer aussi, on a aussi grandi surtout dans un environnement qui est solidaire. Moi, je me rappelle, hein, quand ma mère avait besoin de sucre, elle allait frapper chez sa voisine française. Quand, voilà, il y avait notre voisine, par exemple, espagnole, qui l'a pas emmené avec de la bouffe. Nous, on l'a emmené avec des macroutes, on lui offrait. Quand, enfin, il y avait des fêtes africaines, tu vois, nous qui venaient avec de la bouffe malienne. L'autre, il venait avec de la bouffe italienne, avec de la bouffe française, tu vois. Donc, quand même, on était quand même tous ensemble.
Et c'est pour ça qu'on
titre d'émission. Ouais,
exactement.
C'est vrai qu'on était tous ensemble. On était beaux. On était tous ensemble. On était solidaires. Quand là, il y avait quelqu'un qui là, par exemple, quand il y avait un décès dans une famille, tu vois, donc on allait tous les voir, quoi. On était une sorte de petit village, comme c'était bon. C'est pas tout à fait encore ça, mais ça reste encore comme ça, nous, parce qu'on est une ville où on n'est pas beaucoup, donc on arrive encore à voir ça. Et donc ça, il faut qu'on le garde.
Ouais. Je pense que c'est un magnifique mot de fin.
Exactement.
On le retourne et on a passé un excellent moment avec toi.
C'était partagé. Ouais.
En tout cas, merci beaucoup, Nadia, vraiment.
Merci à vous et puis longue vie à votre émission.
Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission de Focus avec l'équipe de Tous Ensemble sur IDFM 98 FM. Merci, Melik.
Merci à toi, CJ.
Jam et toute l'équipe. Ciao. You
ensemble présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
98 FM. Focus. Focus.
98 FM.